Bah oui, une bonne soirée, d'autant qu'aujourd'hui, c'est un Mac de l'été un peu spécial, puisqu'avec nous ce soir, l'Impératrice, le groupe à l'origine de notre générique, qui nous a fait danser tout l'été, j'espère vous aussi. Et d'ailleurs, tout de suite, ils vont le jouer en direct pour vous.
Bonsoir à tous. C'est l'Impératrice en direct dans le Mac de l'été. Vous êtes sur France Inter avec Nelly Cabrillo. 1, 2, 3, 4.
Bonsoir à tous et bonsoir l'Impératrice. Bienvenue dans le Mac de l'été, le magazine culturel de France Inter. Alors comme c'est notre avant-dernier numéro, et oui, on va bientôt se quitter, on a eu très envie de vous parler d'amour. Pour ça, on reçoit ce soir l'écrivain Éric Reinhardt, son nouveau et très très beau roman « La chambre des époux » chez Gallimard, et aussi Anne-Marie Philippe qui met en scène la correspondance amoureuse de Simone de Beauvoir dans « Pour l'amour de Simone » dès le 29 août au Théâtre du Lucernaire à Paris. Et à la fin, c'est l'actrice Julie Gayet qui nous donnera son coup de cœur de l'été. Bravo, bravo l'Impératrice. Merci mille fois à vous. C'était vraiment super. Et on vous retrouve en fin d'émission pour un autre live. Et bonsoir Éric Reinhardt, vous allez bien ?
Bonsoir, ça va bien. C'est très beau ce que je viens d'entendre.
Ouais, c'est magnifique. Hein. Ouais. Bah, ça nous a bercé tout l'été dans le Mac de l'été. Wow. Enfin, bercé, c'était, on dansait. Hein. Je peux vous dire que c'était un peu chaud sur le plateau.
Non, c'est magnifique.
Vous aviez envie d'écrire un roman d'amour avec La Chambre des Époux ?
De fait, c'était un roman d'amour puisque je voulais écrire un livre sur l'épreuve que nous avions traversée avec ma femme il y a 10 ans, un cancer du sein grave.
Oui, très grave, oui.
Voilà. Et il m'a fallu 10 ans pour prendre le recul nécessaire pour pouvoir écrire ce livre parce que j'avais pas du tout envie d'écrire une chronique ni un récit de maladie. Ça ne m'intéressait pas du tout. Ce que je voulais faire, c'était écrire un livre sur la maladie du point de vue de celui qui n'est pas malade et qui vit la terreur que la personne qu'il aime puisse disparaître et mourir, et comment il peut l'aider à combattre sa maladie, surmonter ses peurs, comment il peut enchanter son quotidien, le quotidien de celui qui est malade et qui devient déliquescent. Je parle du quotidien avec les effets secondaires de la chimiothérapie, etc. Et surtout, je voulais dire à travers ce livre ce qu'on ne dit jamais et qu'on n'entend jamais, à savoir qu'on peut faire de cette expérience difficile une expérience d'une grande beauté, d'une grande force, un moment d'exception, dont on peut même peut-être devenir, les années passant, nostalgique lorsqu'on s'en souvient. Bon. Et quand ma femme est tombée malade, elle a reçu une lettre d'une connaissance professionnelle qui lui disait voilà, j'ai appris que tu étais malade, moi-même j'ai été malade il y a quelques années, c'est fini, je suis guéri, et mon mari et moi on en conserve une forme de nostalgie. Et ce mot de nostalgie qui peut paraître hérétique, choquant, il a produit un déclic chez moi. En lisant cette lettre, je me suis dit mais oui, elle a raison, en fait il va falloir faire en sorte de produire le plus de beauté possible.
La beauté, on va en reparler tout de suite avec vous, Éric Reinhardt.
Donc
Reinhardt.
Forcément, de fait, c'était un roman d'amour, puisque je racontais
donc
cette
un roman d'amour, voilà. Merci. L'amour, Anne-Marie Philippe, pourquoi est-ce que vous aviez envie de travailler au théâtre sur la vie amoureuse de Simone de Beauvoir ?
Parce que, en tant que femme, c'est la femme qui m'a intéressée. Simone de Beauvoir, c'est pas la brillante intellectuelle que tout le monde connaît. Ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'elle a fait pour vivre au quotidien ce pacte que Sartre avait passé avec elle, c'est-à-dire leur amour est nécessaire, mais il faut aussi qu'ils vivent à côté
des amours
contingentes, voilà.
Bien sûr.
Et qu'ils aient des amants et des maîtresses chacun de leur côté. Mais comment est-ce qu'on fait dans un couple, et là, on se rejoint un petit peu dans la thématique, c'est ce que je disais à Éric Reinhardt tout à l'heure. Comment est-ce que le couple survit à ça? Comment est-ce qu'il fait?
On va vous retrouver, on va en parler tout à l'heure. Je vous propose de commencer ce Mac de l'été avec une exclusivité sur France Inter, le nouveau titre de Benjamin Clémentine, Jupiter, à ne pas confondre avec Par Jupiter, la nouvelle émission de nos Belges préférés.
Then it's an alien with extra ability. Pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Benz on alien passing by. Wishing everyone be back home in Jupiter. Things getting harder. Wishing everyone. Joke about shooting stars and spoke like a true bard. Said don't play with songs. Music is not marked as fierce toy. Tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana.
C'était Jupiter de Benjamin Clémentine.
Nelly Caprielian, le Mac de l'été sur France Inter.
Éric Reynard, j'ai adoré votre nouveau roman, La Chambre des Époux chez Gallimard qui sort cette semaine. J'ai vraiment trouvé magnifique, très émouvant. En effet, vous le disiez, ça... Il y a une base qui est quand même la maladie de votre femme en 2007. Mais précisément, comment vous l'avez commencé ce roman, en fait? Vous vouliez écrire sur sa maladie depuis longtemps, l'effet que ça avait eu sur vous, sur votre couple, ou il y a eu un déclic à un moment donné? Parce que ça vient 10 ans après quand même, là on est en 2017.
Ça a commencé par un texte que j'ai écrit pour Les Inrocks, donc pour vous, Nelly et Sylvain Bourmeau, il y a 10 ans.
Je me rappelle très bien, ouais, au moment de la sortie de Cendrillon.
Voilà, vous m'aviez demandé mon journal de l'année. Et je voyais mal ce que je pouvais raconter d'autre que cette expérience que j'ai brièvement relatée il y a quelques minutes, même s'il y avait eu l'élection de Sarkozy, tout ça. Et donc j'ai écrit un texte racontant de la façon dont on avait vécu cette maladie, elle et moi. À savoir que quand elle est tombée malade, j'écrivais Cendrillon et j'ai été tenté de renoncer à l'écrire, à le mettre de côté pour m'occuper d'elle. Et je voyais mal comment je pouvais écrire dans ces conditions. Et elle m'a dit non, continue à écrire Cendrillon. En septembre, tu sors ce livre et moi je suis guéri. Et donc, je me suis battu avec la matière de mon livre en même temps qu'elle se battait contre son cancer. On a fait ça ensemble, tous les deux, enfermés dans le même appartement. C'était absolument magnifique et sublime. C'est l'une des choses les plus fortes que j'ai jamais vécues. Elle avait besoin d'inscrire ses forces dans un combat conjoint et éperdu. Elle avait terriblement peur de mourir. Et je pense que ça l'a rassuré de me voir me battre contre l'impossible, à savoir terminer la moitié d'un livre gigantesque.
Oui, qui faisait combien, 600 pages?
Il faisait 600 pages, 1 200 000 signes. Donc j'ai écrit la moitié de ce livre en 3 mois. Je me suis hissé au-dessus de moi-même, je me suis transfiguré, je suis devenu quelqu'un d'autre en réalité. Tellement j'avais peur de sa mort et je me disais que si je n'y arrivais pas, je la mettais en danger parce qu'elle avait besoin. Donc chaque soir, je lui faisais lire les pages que j'avais écrites pendant la journée, 30, 40 pages, alors que d'habitude j'en écris plutôt 3 ou 4. Et donc c'était comme des injections en intraveineuse, des injections littéraires. J'essayais de produire le plus de beauté possible pour l'enchanter et ça se conjuguait à la chimiothérapie. Ça, je l'ai raconté dans ce texte pour Les Inrocks et j'ai eu tellement de retours sur ce texte qui a permis à des gens... De mieux vivre leur maladie, enfin,
oui, qui eux-mêmes étaient atteints.
Comme moi, j'avais
cancer.
Été aidé par cette lettre que j'avais, que ma femme avait reçue de cette collègue lui disant, tu peux en faire quelque chose de beau. Et donc, en fait, tout est parti de là. Et quelques mois plus tard, je me suis un peu effondré. Je suis même complètement effondré.
Bien sûr, on le comprend, ça, oui, c'est.
J'ai traversé même avec ma femme, tous les deux, on était terriblement mélancoliques, on n'avait plus du tout envie de vie sociale. Toutes les petites vanités de la comédie humaine nous paraissaient dérisoires, grotesques et pas du tout désirables. Et on s'est un peu replié sur nous-mêmes dans une grande mélancolie. Surtout que elle a très mal vécu ce qu'on appelle la rémission, c'est-à-dire ces 5 années pendant lesquelles les médecins ne vous autorisent pas à vous considérer comme guéri. Et en fait, vous pouvez mourir.
Oui, ça peut revenir, la maladie peut revenir.
En effet. Et à ce moment-là, il m'est venu l'idée d'un roman qui aurait raconté l'histoire d'un homme qui, tout amoureux de sa femme qu'il est, la quitte pour rejoindre une femme malade et qui est sur le point de mourir pour... soit l'aider à guérir, soit l'accompagner dans la mort.
Alors c'est Eric Renard, ça, j'adore ça dans le livre. J'adore dans La Chambre des Époux, on part sur un roman qui est votre vie, mais qui est romancé ou fictionalisé. En tout cas, ce ne sont pas, par exemple, ce n'est pas le vrai prénom de votre femme. Et à un moment donné, on va bifurquer dans ce roman que vous auriez abandonné pour écrire La Chambre des Époux. Sauf qu'à un moment donné, vous l'écrivez ce roman, finalement.
En effet, c'est ça.
Alors,
qui me plaisait
dans cette idée.
La première partie du livre est strictement autobiographique. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'écriture de soi. J'aime pas le terme d'autofiction, mais je parlais plutôt d'écriture de soi. Je voulais raconter de la façon la plus précise et la plus véridique, la plus honnête possible, ce que j'avais vécu avec ma femme pendant sa maladie. Parce que je pense que ça peut être riche d'enseignement pour les lecteurs lorsqu'on est à ce point dans la vérité, ou en tout cas dans ce désir de vérité dans l'écriture, même si on va loin dans son intimité et dans la mise à nu, forcément, à un moment, ça peut parler aux autres. On peut atteindre une forme d'universel, et c'est ce que je souhaitais. Et en effet, je raconte, au terme de cette première moitié, très autobiographique, pardon, que j'ai eu l'envie, à un moment, d'écrire un roman.
Et je ne savais pas comment le faire. Et hop, vous l'écrivez.
Et je l'écris. C'est-à-dire que plutôt je mets en scène l'impossibilité dans laquelle je me trouve d'écrire ce livre. Parce que dans le fond, il contenait en son sein son propre interdit. Et je raconte au lecteur ce qu'aurait été ce livre si je l'avais écrit, si j'avais trouvé la force et le courage de l'écrire. Et ce faisant, je l'écris et le livre finit par advenir, par se lever, par se dresser comme un livre fantôme. Et un peu comme qui contient sa propre douleur, un peu comme les membres fantômes des amputés continuent à faire perdurer la douleur du membre absent. Et j'avais très envie de ça parce que ça me permettait de toucher à une forme d'indicible et d'au-delà de l'expérience que j'avais vécue avec ma femme et qui est relatée dans la première partie, qui est la peur incommensurable que j'ai eu qu'elle ne meure, cette espèce d'indicible et d'inacceptable, d'au-delà de l'expérience, elle ne pouvait pas être racontée frontalement à travers une fiction. J'aurais trouvé ça obscène et indécent de faire un roman. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raconté ce que j'aurais écrit si j'avais eu le courage de l'écrire. Et ce livre, il est comme une émanation de cette inconsolabilité que j'ai conservée de cette expérience douloureuse, qui a été très belle par certains côtés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais qui a été aussi effroyable par d'autres, et notamment les moments où, seul avec moi-même, je m'envisageais comme un veuf potentiel, en fait.
Alors, Éric Reynard, moi, je l'ai interprété aussi d'une autre façon. C'est-à-dire que ces deux romans, ou ce roman imbriqué dans le roman, je me disais qu'il y a aussi une façon, c'est tellement vertigineux, ces personnages de fiction qui redeviennent d'autres personnages de fiction, qui se dupliquent, une fiction le réel se duplique dans la fiction, qui se reduplique dans une autre fiction. Enfin, vous voulez aussi dévoiler à propos d'intimité, l'intimité de votre écriture ?
Oui, il y a de ça.
Enfin, les mécanismes de l'écriture.
Ouais, je pense que quand on écrit, on peut faire plusieurs choses en même temps. Et un livre réussi, je pense, fait plusieurs choses en même temps. Donc, je voulais parler de la maladie, de ce qu'on avait vécu, ma femme et moi, pendant qu'elle était malade et que j'écrivais Cendrillon. Mais aussi, en effet, ça, raconter comment un écrivain peut s'emparer d'un matériau autobiographique, de ce qu'il vit, pour en faire un roman. Et là, on voit bien à l'œuvre, dans le livre, la façon dont, en effet, la réalité se duplique, puisque la première partie est donnée comme étant quelque chose de réel, et on le voit bien dans la deuxième partie, je reprends strictement les mêmes ingrédients qui sont dupliqués, mais voilà, avec des personnages de fiction.
Crazy in love, bah oui, c'est même le thème de l'émission d'aujourd'hui. On a tous reconnu notre couple favori, Beyoncé et Jay-Z.
Nelly Capriélian, le Mac de l'été. sur France Inter.
Alors nous sommes toujours en compagnie d'Éric Reynard et d'Anne-Marie Philippe. Et Anne-Marie, vous venez de nous proposer de lire un passage de la Chambre des époux d'Éric Reynard. C'est gentil, c'est à vous.
Non, j'ai été bouleversée par ce livre. J'ai plongé dedans.
Ah, je suis ravie.
Et j'ai voulu, voilà, j'avais envie. Moi, c'est mon métier. J'aime qu'on entende les mots. On les ressent, mais
vous êtes actrice et metteur en scène, donc c'est.
C'est un peu mon boulot.
Vous savez la valeur des mots. Oui.
Voilà. C'est bizarre ce qui s'est passé hier soir. Je comprends pas. J'étais heureux que cette femme soit vivante. Heureux, tu peux pas savoir à quel point. C'est difficile à expliquer. Je sais pas comment t'expliquer ça. Alors que je la connaissais pas, tu vois, cette femme, je devrais m'en foutre, mais elle était si rayonnante, comment dire, d'être en vie. Voilà, c'est d'être en vie, juste ça. Rayonnante d'être en vie. C'est peut-être ça qui m'a bouleversée chez cette femme. Elle sait qu'elle peut bientôt mourir et le savoir fait qu'elle est plus intense que quiconque. Tous les autres, hier soir, ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en vie et que c'est une chose inouïe d'être en vie, une chose à laquelle on devrait penser, pardon, à laquelle on devrait penser, alors que c'est une chose à laquelle on devrait penser à chaque seconde de son existence, tu crois pas? C'est ça qui m'a frappée chez cette femme, je crois. Elle est en vie et elle le sait. Et elle m'a donné le sentiment d'avoir conscience qu'elle est en vie, et ça m'a bouleversée. Et ça me bouleverse encore à un point que je peux pas que tu aies. C'est peut-être justement parce qu'elle va...
Merci beaucoup Anne-Marie Philippe, j'en ai la chair de poule, c'est magnifique,
c'est un bonheur.
Bravo. Pourquoi d'ailleurs, en quelques mots, pourquoi il vous a bouleversé le livre d'Éric Reynard?
À cause de sa façon d'écrire, il y a un rythme d'une manière générale, il y a quelque chose auquel je suis très sensible. Il rentre pas par l'intellect dans le sens, il rentre par le rythme. Et ça fait que j'ai plongé dedans comme on plonge dans l'océan. Et j'ai nagé.
Merci, ça me touche. Donc par le rythme et donc par le corps.
C'est par le corps. C'est un rythme. Oui, c'est un livre dans lequel on rentre par le corps. Ouais. Il m'a bouleversé physiquement.
Mais ces pages-là, ces lignes-là que vous venez de lire, je les ai écrites en pleurant.
Ah ben voilà.
Et à chaque fois que je les relis, je pleure. Donc je n'ai pas pleuré pendant toute l'écriture du livre, mais ces 20 pages-là, en fait, pendant plusieurs semaines, je les ai écrites. Alors en effet, il y a une énergie du sanglot aussi, c'est très agréable de pleurer. En fait,
ce que vous dites un peu plus haut dans la page d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ça.
Et donc en fait, à ce moment du livre, le narrateur, donc moi, puisque c'est dans la partie autobiographique du début, en fait, je pleure parce que j'ai rencontré une femme la veille lors d'un dîner miraculé qui a survécu par miracle d'un cancer extraordinairement grave. Et en fait, elle m'a fait craquer. C'est à ce moment-là que je me suis effondré après tout le courage que j'avais manifesté pendant que ma femme était malade et que je m'étais battu à ses côtés. Et en fait, c'est un petit déclic comme ça, là. Rencontrer une femme lors d'un dîner.
Qui est très malade, enfin qui rappelle.
Qui a été très malade et qui est toujours dans la période de rémission, donc elle peut rechuter d'un moment, n'importe quel moment. Et en fait, c'est de cette rencontre, lors de ce dîner, que m'est venue l'idée d'une seule fleur. Dans le fond, je me suis dit, mais si cette femme qui t'a tellement
donc
fasciné.
Donc une seule fleur, le roman qui arrivera
roman
après, oui.
Qui est dans le roman. Dans le fond, si cette femme devait rechuter, est-ce que tu serais capable de ne pas la rejoindre, en fait, pour lui apporter tout l'amour que tu peux lui donner, alors que tu n'es pas amoureux d'elle, mais juste parce que c'est inacceptable qu'une femme aussi belle et aussi vivante, si pleine de grâce, soit mise en danger par quelque chose aussi horrible qu'un cancer du pancréas. Et cette femme si belle, je me suis dit, mais si dans 2 mois, j'apprends par mes amis communs qu'elle est malade, c'est sûr, j'irai la rejoindre, alors que je suis très amoureux de ma femme. Et donc, l'idée d'une seule fleur, ce roman dans le roman, c'était ça. C'était un homme très amoureux de sa femme, mais qui part rejoindre une femme dont il apprend qu'elle a rechuté et qu'elle va mourir, parce qu'il veut l'accompagner dans la mort et lui donner tout l'amour qu'il peut lui donner, soit avec l'espoir que cet amour qu'il lui donne puisse la guérir, en lui donnant la force de se combattre et de trouver des forces insoupçonnées en elle, soit lui rendre sa fin la plus belle possible.
Alors Éric Reynard, il y a, bon, évidemment, on vient d'en parler, beaucoup la mort, l'ombre de la mort qui plane sur ce roman. Mais l'amour, il y a toujours chez vous, je trouve, moi ce que j'adore, c'est un romantisme et c'est une absence de peur d'aller dans le romantisme. Au fond, pour vous, c'est, vous le revendiquez, ce romantisme, c'est une forme de réenchantement du monde. Je sais que c'est une idée qui vous tient à cœur.
En effet, une forme de réenchantement du monde. Et puis, au départ, parce que c'est dans Cendrillon que j'ai commencé à clamer haut et fort qu'on pouvait être amoureux. Et c'était en réaction à tous ces écrivains et au-delà qui déclarent que l'amour n'existe pas. Qu'en fait, c'est juste une fiction bourgeoise et un mensonge inventé par ceux qui souffrent.
Par Madame Bovary.
Forcément, d'être en couple, puisque ça ne peut être qu'atroce. Et pour se venger de leur malheur sur les autres, ils déclarent qu'ils sont amoureux et que c'est merveilleux. Et donc, en fait, cet amour serait donc une vaste escroquerie, une espèce de mensonge.
Oui,
de
mensonge,
social.
Oui. Voilà.
Et moi, je ne pense pas, je pense que l'amour existe, et je pense que l'amour qui dure longtemps existe, et je voulais le dire et l'écrire. Et je pense que il faut le vouloir, il faut en avoir envie, il faut, pas plus que le chef-d'œuvre, le grand amour et l'amour qui dure longtemps ne tombent du ciel sans effort, donc il faut y travailler aussi. C'est-à-dire que c'est une discipline, il ne faut pas être paresseux, en fait il faut être très exigeant vis-à-vis de soi-même, dans la relation à l'autre.
Oui, on dit toujours l'amour, c'est du boulot, Eric Reinhardt.
Mais un boulot, non, c'est
parce que c'est du plaisir aussi.
En effet, puisque ce que ça apporte. Mais je tiens beaucoup à cette idée qu'en fait, il faut, ça ne vient pas tout seul. Il faut regarder l'autre. Souvent, les gens, quand ils ne sont plus amoureux, pensent que c'est à cause de l'autre qui n'a plus les qualités qu'il faudrait, qui s'est relâché ou qui a tout soudain, du jour au lendemain, tous les défauts du monde. Mais souvent, c'est parce qu'ils ont juste cessé de regarder l'autre sans s'en rendre compte. Ils ne savent pas qu'ils ont cessé de regarder l'autre et que c'est pour ça qu'ils n'aiment plus l'autre. Et en fait, la beauté de l'autre, elle est dans son propre regard. Et
oui,
cette beauté qui est dans son propre regard, il faut s'en occuper. Et il ne faut pas la laisser dépérir. Et je pense que le regard qu'on pose sur l'autre, il est très important. Et c'est la condition de l'amour.
Et sur le monde autour de soi aussi. C'est ce que j'aime aussi dans vos romans, Eric Reinhardt. Alors, vous avez publié le premier, Demi-sommeil, en 98. Alors, en près de 20 ans d'écriture, Eric, est-ce que vous pourriez aujourd'hui, je sais que c'est toujours un peu difficile, mais un peu cerner votre projet ? Est-ce que, ou vers quoi vous allez ? Est-ce que vous avez, de livre en livre, réussi à comprendre en fait qu'est-ce qui vous travaillait, littérairement ?
Moi, je pense que j'écris parce que c'est la manière que j'ai choisi de vivre ma vie et le présent. Le vrai sujet, c'est comment on vit le temps. Et donc, j'ai choisi d'écrire parce que c'est de cette façon-là que je vis le réel et que je vis le temps et que je vis l'époque. Et donc, in fine, je laisserai derrière moi un ensemble de livres qui seront l'empreinte que j'aurai laissée dans ma vie. Voilà, et après, ils pourront avoir un écho, mais... Je pense que, c'est Pascal qui disait on peut pas rester dans sa chambre seul y a des gens qui veulent gagner de l'argent, d'autres qui ont besoin de défis, de guerres, de faire des démonstrations de puissance, etc. Et moi, j'ai choisi de vivre ma vie de la façon la plus sensible possible à travers les mots. Voilà.
Alors, Eric Reinhardt, je sais que vous aimez aussi beaucoup le théâtre. Vous en avez écrit, Elisabeth ou l'Équité, qui a été montée au Théâtre du Rond-Point en 2013. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de théâtre avec Anne-Marie Philippe juste après les news du Mac de l'été. Alors, plus que quelques jours pour aller voir Mémoire et Lumière, une expo sur la photo japonaise des années 50 à 2000. Les plus grands photographes nippons y sont exposés, dont beaucoup abordent la tragédie de Nagasaki ou la perte d'un proche, comme le très bel hommage d'Araki à sa femme disparue. C'est à la Maison Européenne de la Photographie jusqu'à dimanche. Rock en scène, ça commence demain. Pendant 3 jours, le festival réunit le meilleur de la scène pop-rock internationale, dont Franz Ferdinand, The Kills, The Lemon Twigs et beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, nous aussi, puisque le Mac de l'été y sera demain soir. À propos de lettres d'amour des écrivains, les lettres de Vladimir Nabokov à sa femme Vera sortiront le 25 septembre chez Fayard. Même s'ils furent rarement séparés durant leur demi-siècle de mariage, ils se sont beaucoup écrits, notamment dans les années 20, juste après leur rencontre à Berlin. Des lettres qui éclairent la personnalité et le travail du père de Lolita.
France Inter, le Mac de l'été, Nelly Capriélian.
Au début, je ne pensais pas du tout m'occuper jamais d'une manière spéciale des problèmes du féminisme, parce qu'il me semblait, et d'ailleurs il me semble encore aujourd'hui, que ces problèmes sont subordonnés à des problèmes sociaux beaucoup plus vastes. C'est seulement dans ces dernières années que ce désir m'est venu, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Pour moi, c'est un livre que j'ai écrit sans aucune inimitié, sans aucune hostilité. J'ai simplement essayé de faire une mise au point. Eh bien, ça n'est pas de ma faute si, en France en particulier, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe.
Simone de Beauvoir, en 1948, qui parlait de son livre « Le deuxième sexe ». Alors Anne-Marie Philippe, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur la correspondance amoureuse de Simone de Beauvoir ?
La femme.
Oui, plus la femme que la philosophe ou la...
Totalement la femme. Essayez de comprendre de quoi était faite cette femme. Pas cette intellectuelle, comme je disais tout à l'heure, mais cette femme. Comment a-t-elle fait ? Parce qu'il y a le couple Sartre-Beauvoir, ça c'est une chose. D'ailleurs, ils s'appellent jumeaux. Ils ont un côté gemellaire. Mmh. C'est une entente qui va bien au-delà du corps. D'ailleurs, physiquement, ils ont cessé relativement rapidement d'avoir des relations physiques entre eux. Mais en revanche, c'est une relation intellectuelle absolument extraordinaire. Ensuite, il y a les amants et les maîtresses. Des amants et des maîtresses. Simone de Beauvoir était bisexuelle. Elle avait des maîtresses aussi. Qui étaient aussi des maîtresses de Sartre. C'était une espèce de clan, de famille sartrienne. On l'appelait la petite famille sartrienne. Bost, en 1938, a été l'amant de Simone de Beauvoir. Il était un ancien élève de Sartre au lycée du Havre.
Et son secrétaire aussi. Le secrétaire de Sartre. Qu'ils appelaient le petit Bost. Non, c'est
alors,
ça.
On l'appelait le petit Bost par opposition à son frère Pierre, qui était scénariste. C'est pourquoi on lui disait le petit Bost. Mais c'était pas en raison de sa taille. Et puis son grand amour charnel, qui a été Nelson Algren, son amour transatlantique, son amour américain. Alors, moi, j'ai fait le spectacle avec Bost, Sartre, bien sûr, qui chapeaute l'ensemble, et Algren, avec trois Simones. On est trois Simones.
Donc trois actrices.
On est trois actrices et
vous
un
jouez aussi, donc si vous voulez.
Je joue la Simone de Sartre.
Oui.
J'ai une comédienne Camille Lockhart.
Hein.
Joue la Simone de Bost et Aurélie Noblesse, la Simone de Bost. D'Algren, pardon. Et un homme, Alexandre Laval, joue les trois hommes. J'ai inversé le processus.
Ah oui, c'est pas mal. C'est très intéressant comme procédé. Et alors, je sais que vous parlez de Nelson Algren, mais alors j'ai une question à vous poser, puisque vous avez dû les travailler, les lettres de Simone de Beauvoir pour votre pièce. Elles étaient assez cruelles, non ? Enfin, il y a des lettres très belles et il y a des lettres très cruelles. Est-ce que c'est vrai qu'elle a quitté Algren pour rester avec Sartre ?
Ah, tout à fait, absolument. D'ailleurs, dans le spectacle, on a toutes ces lettres-là. C'est que ce sont des lettres extrêmement pragmatiques. Et il y a une lettre mais sublime dans laquelle elle écrit à Algren, il y a une chose que je ne pourrais jamais faire, c'est causer un tort irréparable à cet homme qui m'a tout donné, Sartre. Mm-hmm. Je sais que je suis en danger de vous perdre, et vous perdre serait pour moi plus fort que mourir. Elle l'écrit.
Oui, donc ça rejoint vraiment ce que vous disiez, Anne-Marie Philippe. C'est la relation quasiment siamoise.
Avec
si l'un s'en va, l'autre meurt. Enfin,
absolument.
Oui, avec Sartre.
Elle a été enterrée et elle a porté toute sa vie l'anneau argenté que lui avait offert Nelson Algren au lendemain de leur première nuit, qui était une bague qu'il aurait pu trouver dans une boîte de pop-corn. C'est lui-même qui l'a écrit. Et elle l'a porté toute sa vie et elle a été incinérée avec cette bague.
Et dans sa correspondance, quelles sont les plus belles lettres d'amour qu'elle a écrites ? Est-ce que c'était à Bost ? Est-ce que c'était à Sartre ? Est-ce qu'elle change d'écriture ?
Elles sont différentes.
Elles
sont différentes. Bost, ça commence en 38. Ça a duré relativement longtemps, puisqu'il y a une lettre à Algren où elle lui dit c'est Bost, l'homme dont je vous parlais. Bon, finalement, on a rompu. Cette liaison a été très longue avec Bost. Ensuite, Algren, ça commence en 47 quand elle part faire une série de conférences aux États-Unis. Et là, la passion est charnelle, immédiate. Total. Il est très très beau, hein. Algren, il ressemble un petit peu à Miller, Marilyn Monroe. Il est d'une beauté comme ça, très américain. Et sexuellement, on sent que c'est une espèce de coup de foudre, mais un truc
oui, de passion
fou.
Physique.
Ah, c'est une passion physique incroyable. Ouais, et là, en 50, la liaison amoureuse se termine, cette liaison passionnelle se termine parce qu'Algren n'en peut plus de Sartre, quoi. Elle repart tout le temps en France, elle repart tout le temps rejoindre Sartre. Et à un moment, elle lui dit, écoute, c'est pas possible.
Il lui a posé un ultimatum, Algren.
Algren a dit, ça suffit. Ouais. C'est pas possible. C'est lui qui a rompu.
Est-ce qu'il y a une contradiction, est-ce qu'il y a des contradictions entre justement ces théories féministes et sa façon de vivre l'amour à travers ses lettres?
Mais alors, cette question évidemment.
Non, on se la pose toujours, hein, c'est un peu le oui, marronnier, je sais, mais justement, on vous tient de Marie-Philippe, vous les avez.
Je ne peux donner que
vous les avez répétées, vous les avez travaillées. Oui, mais c'est votre avis qui nous intéresse.
Mais alors, vous savez que le deuxième sexe, c'est très intéressant parce que quand Simone est arrivée en Amérique en 47, donc, qu'elle a découvert les États-Unis, en fait, c'est par Algren qu'elle a découvert le milieu. Les bas-fonds de Chicago, puisqu'Algren était un écrivain de Chicago, les drogués, les putains, les voleurs, et la condition des blacks. Parce qu'en France, ça n'existait pas. Chez la Garde, c'est sûr, on ne l'avait pas eu. Et c'est Algren qui lui a décrit tout ça. Et l'idée du deuxième sexe, ce parallèle, est un parallèle avec les blacks. Donc l'idée du deuxième sexe, et ça je raconte dans le spectacle, est née par Algren, en fait. Et vous répondre sur la question du féminisme et de la façon dont elle vit ses passions amoureuses.
Oui, quelle amoureuse elle était.
Elle est en même temps
une amoureuse féministe.
Totalement indépendante. Elle assume entièrement ce qu'elle fait et c'est une vraie femme.
Éric Reynard, vous les avez lues, les lettres de Simone de Beauvoir?
Il faut venir.
Il faut venir.
Je vais venir.
Et puis on vous les recommande. Moi, je les ai lues, notamment sa correspondance avec Algren. Ouais, c'est absolument
c'est magnifique. Mais on n'a pas les lettres d'Algren. La famille refuse, les ayants droit refusent la publication.
Ah, ça, les ayants droit, c'est souvent les pires. Ouais, dommage. Alors, pour revenir sur votre dispositif, donc qui sera au théâtre, sur la scène du théâtre du Lucernaire à Paris, donc il y aura les trois actrices toujours sur scène, dont vous, et puis un acteur qui jouera les trois. Et comment ils se répondent, comment vous l'avez mis
mais
en scène?
Il faut que vous veniez voir le spectacle.
Ah oui, mais je vais venir. Mais là, j'aimerais qu'on donne envie à nos auditeurs.
C'est pour ça qu'il faut venir le voir. C'est un montage extrêmement fluide. Ce sont des lettres qui se répondent ou qui ne se répondent pas. Je saute d'une chose à l'autre. C'est quelque chose de très vif. En même temps, c'est pas très j'ai pas voulu m'apesantir. Tout d'un coup, il y a une lettre magnifique qui, elle, est en complet ou à peu près. Mais je zappe beaucoup. Je suis une grande zappeuse. Moi, j'ai une très très grande peur dans la vie, c'est de m'ennuyer. Je supporte pas l'ennui. Donc
vous nous assurez qu'on va pas s'ennuyer, parce que vous-même, vous n'avez pas eu
Je vous assure que c'est pas ennuyeux.
Alors, Anne-Marie Philippe, vous êtes comédienne. Bon, on le sait que vous êtes la fille de Gérard Philippe. Vous avez joué sous la direction de plein de metteurs en scène, assez remarquables. Jean-Louis Barrault, Peter Brook, au cinéma aussi. Pourquoi, à un moment donné, on bascule, on a envie de faire de la mise en scène?
Parce que assez rapidement, il m'est apparu le fait que être juste comédien, c'est une éternelle question. Est-ce que le comédien est un créateur? Il y a une part créative, certainement. Moi, la seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est de créer. Je le dis sans aucune prétention. Il n'y a pas de prétention. Si je ne suis pas en période de travail productif, j'imaginerai un plat pour le soir même. Quoi. Je veux dire, je vais me mettre en cuisine, je vais imaginer quelque chose. Mais je ne peux pas vivre sans fonctionner, sans créer, dans tous les sens du terme. Ça peut être dans un jardin, ça peut être un paravent, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est pour moi absolument nécessaire. Et le rôle du comédien ne m'était plus suffisant. C'est pas assez.
J'ai besoin
de pouvoir imaginer, de pouvoir... Ma vie entière est dédiée à ça. Je regarde et j'écoute et je m'imprègne et il faut que ça ressorte. Quelque part.
Alors Anne-Marie Philippe, question un peu personnelle, mais je crois qu'on ne travaille pas sur un sujet par hasard. Et c'est souvent les biographes, je pense qu'ils choisissent un sujet de biographie parce qu'ils trouvent un écho. Est-ce que Simone de Beauvoir, il y a un écho chez vous? Est-ce que ça touche une fibre de votre personnalité, la personnalité de Simone de Beauvoir? Silence.
Non, c'est pas, je réfléchis. Je ne suis pas tellement sûre de ça. C'est j'aime les humains, j'aime les autres, j'aime comprendre le fonctionnement des humains. Et là, je me trouvais devant une montagne, parce que le fonctionnement de ce groupe sartrien, de cette famille sartrienne, est vraiment extrêmement complexe. Et j'ai passé un an et demi avec eux, à tâcher de débrouiller et de comprendre comment ça avait pu marcher. Cet amour Sartre-Simone est quelque chose de juste incroyable. Mais il y a plein de formes d'amour. Je pense que c'est à ça qu'on est confronté là-dedans. C'est que ce sont différentes formes d'amour. Il y a cette liaison charnelle Algren, il y a cette gémellité du cerveau intellectuel avec Sartre, et il y a Bost, le petit Bost qui est si charmant, voilà.
Alors, il est 18h50 sur France Inter et c'est le moment du coup de cœur de l'été.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Avec nous ce soir, Julie Gaillet. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Je suis très contente de vous avoir avec nous ce soir.
C'est gentil.
Alors, je crois que vous êtes en répétition d'ailleurs. Qu'est-ce que vous répétez ?
Alors, je répète une pièce d'un auteur contemporain américain à Lyon. Voilà, ça s'appelle Rabbit Hole de David Lindsay Haber, qu'on va jouer à la rentrée au Célestin, voilà, au Théâtre des Célestins à Lyon.
Ah bah, c'est génial. Donc, on sait qu'on va vous retrouver à la rentrée, Julie.
voilà.
Alors, Julie, quel est votre coup de cœur pour l'été?
Ben alors du coup, comme je suis à Lyon,
oui.
C'est un peu tout ce qui se fait en cinéma là. Il y a plein de choses l'été et j'aime beaucoup le cinéma en plein air, le cinéma pour enfants. Donc il y a trois lieux. Il y a le Sucre qui est un nouveau lieu qui est à Confluence, qui accueille en général les Nuits Sonores, la Biennale de la Danse, choses comme ça, et qui font tous les dimanches soirs et donc ce dimanche. Un cycle là, c'est True Romance. Donc c'est à la sauce un peu Hollywood, moi qui est un film qui m'avait beaucoup marqué, qui était le premier scénario de notre ami qui avait fait Reservoir Dogs de Tarantino. Voilà.
Ah voilà, je séchais moi aussi, oui.
Oui, voilà. Donc ça c'était True Romance, c'est ce dimanche, et puis l'Institut Lumière, c'est toujours tout l'été des cinémas en plein air, qui est assez rigolo, et moi j'adore ça aussi. Là c'est Air de Milos Forman.
Un très bon film. Très bon choix.
Plutôt pas mal, parce que si vous avez envie ce week-end, il y a un festival en plein air qui ressemble un peu, ça s'appelle Woodstower, qui est assez rigolo. Voilà, donc c'est beaucoup de cinéma. Et puis le cinéma Comédia, qui est l'endroit où moi je vais toujours, qui est un cinéma indépendant à Lyon et qui fait toujours des avant-premières. Il y a Karine Tardieu qui va présenter Au témoin d'un doute, son film qui était à Cannes avec François Damiens, voilà.
Alors Julie Gaillet, le cinéma, bah ça ne vous étonne pas de vous. On sait que vous êtes aussi productrice, actrice, productrice. Et vous allez mettre en scène à la rentrée Les Noces de Figaro, aussi un opéra.
En
plein air aussi, bah, on y reste. Merci beaucoup à vous, Julie Gaillet. Et on vous retrouve en septembre. À bientôt, Julie. Au revoir.
Merci, au revoir.
Alors, et vous, mes chers invités, Éric Reinhardt, quel est votre conseil de l'été ?
Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu. C'est la Traviata, mise en scène par Benjamin Lazare, avec l'extraordinaire Judith Chemla, au Théâtre des Bouffes du Nord, à partir du 6 septembre, je crois. En fait, c'est une reprise. C'est un spectacle dont on m'a dit le plus grand bien, on m'a dit que c'était génial. Je n'ai pas pu y aller parce que c'était complet. Ça a joué à guichet fermé pendant des semaines. Et là, ils le reprennent au Bouffes du Nord, donc la Traviata, mise en scène par Benjamin Lazare avec Judith Chemla. Je crois que c'est génial et j'ai hâte d'y aller.
Bon, on va y aller. Et vous, Anne-Marie Philippe, votre coup de cœur de l'été ?
Diorama au Palais de Tokyo. C'est une exposition extraordinaire. Il faut courir, je crois que ça finit le 10 septembre.
Ah bah, très bon choix, Anne-Marie. Alors nous, sur France Inter, notre coup de cœur, c'est définitivement le groupe L'Impératrice. Pour preuve, leur morceau Agitation Tropicale a fait le générique du Mac de l'été. Bonsoir, Charles de Boisseguin.
Bonsoir,
du
Nelly.
Groupe L'Impératrice. Alors pourquoi ce nom, L'Impératrice ? Alors, vous êtes beaucoup de garçons quand même, il n'y a qu'une fille.
Ah, justement. on va dire que c'est un personnage fictif qu'on a inventé pour décrire un peu ce qui se passe quand on joue de la musique. Voilà. Et donc c'est histoire de personnifier les émotions et puis l'addiction aussi qu'il y a à faire de la musique.
Est-ce que vous pourriez nous parler d'Agitation Tropicale, justement le morceau qu'on a passé là tout l'été en générique, on dansait dessus, il parle de quoi ?
Alors c'est très rigolo parce que je me souviens il y a 2 ans, je donnais une interview aux Inrecuptibles le lendemain de notre release party. Et on m'avait posé la même question, j'en avais absolument aucune idée. Et du coup, j'ai répondu à la volée que ça racontait l'histoire d'une partouze dans la jungle, ce qui se tient.
Ah mon Dieu, on savait pas.
Voilà. Voilà ce qui s'est passé.
On affiche la couleur, là, tout de suite. Hein. Et Charles, vous avez sorti votre troisième EP en 2015. Et à quand un album de l'Impératrice ?
Eh bien, très bientôt, puisqu'on est en train de le terminer là, et je pense qu'il sortira début 2018.
Ah, excellente nouvelle, c'est un scoop pour le Mac de l'été. En plus, Charles, je vous laisse vous installer pour votre live, car tout de suite, l'Impératrice, on les retrouve. Ils nous font le délicieux cadeau, on les adore, je crois que vous avez compris, d'être en direct avec nous. Et ils vont nous jouer tout de suite Sultan des Îles. À vous.
Talons piqués et cuir de star, cheveux dressés et blonds, trottoir. Sur son boulevard, les néophares décorent en rose et noir. Elle attend la sans y croire, bois de la nuit perd le rare. Qu'une ombre se glisse dans sa nuit bizarre. Sa nuit blanchie illusoire. Les sultans.
Vous avez compris, on vous adore. On était vraiment, moi j'étais accrochée à mon micro, sinon j'aurais bien dansé avec vous. Et merci Eric Reinhardt pour votre magnifique roman, La Chambre des Époux, qui vient donc de sortir chez Gallimard.
Merci de m'avoir reçu.
Et merci Anne-Marie Philippe, pardon. Alors, je rappelle que Pour l'amour de Simone commence donc le 29 août au Théâtre du Lucernaire à Paris et c'est jusqu'au 15 octobre.
À 18h30 tous les jours et le dimanche à 15h.
C'est précis, merci à vous.
Merci aussi à toute l'équipe du Mac de l'été, Céline Hila à la réalisation, Alexia Lacour et Marie-Laurence Chéry à la préparation avec l'aide d'Olivia et Arthur. Et merci à Muriel Pérez pour la programmation musicale, à la technique ce soir, Gaël Braouzek, Dimitri Gronoff et David Federman. Juste après le journal, on retrouve, comme chaque soir, le téléphone sonne de Philippe Lefebvre. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous parlerez de quoi ce soir?
Remettez-vous. Nous allons parler du devoir de mémoire et de la transmission aux jeunes générations. Alors vos questions et vos témoignages, c'est dès à présent au 01 45 24 7000.
Ah, il est 19h sur France Inter.